Bonjour et bienvenue à l'émission Le quotidien des quotidiens. Nouvelle musique, nouveau titre. Salutations au groupe Maz, compositeur de cette belle musique qui est maintenant notre indicatif. Hélène Denis au micro. Et en face de moi, c'est Maurice Bolduc. Bonjour Maurice.
Oui, bonjour, ça va?
Ben oui, vous?
Oui.
5 décembre, les éphémérides,
2017,
c'est l'anniversaire de Maurice Bolduc.
Ben, oui, entre autres.
Bonne fête, Maurice.
Ben, merci beaucoup.
Est-ce que vous êtes de bonne humeur?
Oui, ça va. Oui,
okay. Okay. Le jour de votre fête, comment vous vous sentez?
Ni plus ni moins, comme hier.
Oui.
Comme demain. Demain, on verra. Mais là,
vous avez une journée de plus et vous changez de chiffre.
Une année de plus,
oui.
On change de...
Alors, bonne année, puis bonne journée. On vous écoute.
Ce 5 décembre, année internationale. C'est la journée internationale tient du bénévolat aujourd'hui. Tous les bénévoles qui œuvrent partout dans le monde et ici aussi à Canal M et à Vues et Voix, bon, on vous salue.
Oui, il y en a beaucoup à Canal M de Vues et Voix. J'ai le chiffre ici devant moi, 350 bénévoles. Vues et Voix accueille 350 bénévoles, 380 si on ajoute Canal M.
Ah, donc bravo.
On les salue, eux particulièrement, mais tous les bénévoles aussi.
De partout dans le monde.
Ouais.
C'est la journée mondiale des sols, donc faire attention à nos sols, bien les entretenir pour, contre la pollution. Et aussi, c'est la journée internationale du ninja.
Ah, oui.
On se fait une petite
pause.
En
quel honneur.
Ah, ça, j'ai pas les détails. Quelques événements ce 5 décembre. En 1893, c'est l'apparition de la première voiture électrique. Donc, ça a pris quelques années avant que ça revienne. On n'a pas encore tout consommé notre pétrole. Pour ceux qui ont fait leur latin, en moins 63, qui ont étudié le latin, oui, en moins 63, Cicéron prononce son quatrième catilinaire, oui, devant le Sénat. Je dis ça pour ceux qui ont fait le latin, parce que j'en ai fait. On traduisait les catilinaires de Cicéron. Donc, salutations.
Avez-vous aimé ça?
Oui.
Oui.
Oui, souvent, ça débordait sur l'histoire de Rome, etc.
Ah oui,
c'était bien.
C'est bien de se cultiver.
Toujours. En 1792, c'est l'ouverture à Paris du procès du roi Louis XVI, qui sera décapité une couple d'années plus tard. En 1933, la prohibition de l'alcool est abolie aux États-Unis après 13 ans. En 1945, Aircraft Squadron perd... l'escadron Aircraft... c'est un avion qui... Cinq avions qui sont disparus dans une mission de routine au Triangle des Bermudes.
C'est
peut-être de là que le fameux mystère du Triangle des Bermudes débute. En 1962, Claire Curtin Cassegrain devient la première femme à occuper une fonction ministérielle au Québec. Et c'était aussi la première femme qui a été élue comme députée à l'époque à l'Assemblée législative du Québec.
Qui nous a quittés, ça fait pas si longtemps.
Assez récent, un an environ.
En
1973, c'est à l'inauguration de l'édifice de Réseau Canada, qui a 44 ans aujourd'hui. Ils ne se rendront pas à 5 ans parce qu'ils en construisent...
ils déménagent.
...à côté, mais ils construisent une nouvelle bâtisse.
Ouais.
En 1984, tous les pays membres de l'ONU adoptent un projet de traité d'interdiction de la torture. Certains l'ont signé, mais ils ne respectent pas vraiment. En 1990, l'écrivain britannique Salman Rushdie paraît pour la première fois en public depuis l'appel au meurtre lancé contre lui par l'Iran en février 1989. En 1991, c'est l'entrée en vigueur au Canada d'une première loi contre le contrôle des armes à feu, et on en parle encore aujourd'hui. En 2008, l'ancien joueur de football et américain et acteur O.J. Simpson est condamné à Las Vegas à 33 ans d'emprisonnement pour un vol à main armée en 2007 dans un hôtel de ville. Il n'a pas fait 33 ans, il est sorti semaines. Ouais. Donc, il a purgé son temps, il faut croire. Quelques naissances, Maurice Bolduc. Et sinon, je ne suis pas sûr de faire partie des éphémérides d'un jour. Walt Disney naît en 1901.
Ah oui, vous êtes né la même date que Walt Disney.
Mais il nous quitte en 66. Le rocker Little Richard, né Penniman, naît en 1935. Le ténor espagnol José Carreras naît en 1946. Et la chanteuse pop française Patricia Cass naît en 1966. Et quelques décès, le peintre français Claude Monet décède en 1926, il était né en 1840. En 1870, le romancier Alexandre Dumas père décède. Mozart aussi, Wolfgang Amadeus de ses courts prénoms, meurt en 1791. Dave Brubeck, jazzman américain, lui, qui nous quitte en 2012 et Nelson Mandela aussi nous a quittés en 2013. C'est lui qui était le premier président noir de l'Afrique du Sud.
Mm-hmm. Si vous trouvez Take Five, ça serait bien. Un petit clin d'œil à Dave Brubeck.
On va regarder.
À un moment donné.
Oui, oui, un petit pont musical.
Merci Maurice. On puis offrez-vous ça. Donc des chansons à votre goût parce que c'est votre fête puis vous adorez la musique.
Entre autres.
À la une de la presse aujourd'hui, exclusif, baisse massive des taxes scolaires. Le gouvernement Couillard accordera l'été prochain un répit de 600 millions aux propriétaires fonciers. Serez-vous parmi les heureux gagnants? Une autre exclusivité de la presse, actualité budget de transition. Québec serre la vis aux anciens premiers ministres. Bromont, querelle de frères autour d'un massif. Et la chronique de Stéphanie Grandmont, une bourse gonflée aux stéroïdes. Art, télévision, quel est le problème avec Apu? Un documentaire critique le personnage stéréotypé des Simpsons. Texte de Denis Lessard, un autre cadeau qui tombera juste avant le début de la campagne électorale. Les efforts de l'ensemble des contribuables seront mis à contribution pour accorder une baisse de taxes scolaires de 600 millions aux propriétaires fonciers, une mesure financée à même les surplus budgétaires accumulés par le gouvernement. Les taxes scolaires représentent une somme de 2,4 milliards de dollars au Québec cette année. Le ministre de l'Éducation, Sébastien Proulx, déposera jeudi un projet de loi qui nivellera sur le plus bas taux régional le taux de la taxe scolaire pour l'ensemble des propriétaires fonciers. En outre, tous les édifices se verront accorder une exonération de 25 000 $ sur la valeur de la maison, une portion qui sera soustraite du calcul de la taxe. Cet allègement fiscal qui profite aux propriétaires de résidences ou d'édifices commerciaux épuisés à même les surplus accumulés par le gouvernement, épongés par les taxes et impôts de l'ensemble des contribuables. Le nivellement des taux par région entraîne des économies de taxes scolaires de 400 à 450 millions. L'exonération générale représente quant à elle un allègement de 150 à 200 millions, confie-t-on. La baisse de taxes scolaires tombera à point nommé l'été prochain, à quelques jours du début de la campagne électorale. Les propriétaires reçoivent à l'été leurs factures de taxes scolaires pour l'année financière du secteur de l'éducation. Déjà, une autre mesure de la mise à jour du ministre Letao tombait quelques jours avant le déclenchement de la campagne menant aux élections générales du 1er octobre 2018. Québec va transférer aux parents 100 $ par enfant d'âge scolaire pour aider à payer les factures de la rentrée scolaire. Cette mesure n'aura pas beaucoup d'impact dans la région de Montréal où les taux sont nivelés. Mais ici, l'exonération viendra tout de même donner un peu d'oxygène à ses propriétaires. Texte de Martin Croteau et de Denis Lessard, c'est la fin des contrats discrétionnaires et des locations de bureaux coûteux. Les anciens premiers ministres auront accès à un budget de transition de 200 000 $ lorsqu'ils quitteront le pouvoir, mais ils n'y auront droit que pour un an et l'utilisation de l'enveloppe sera strictement balisée. Le gouvernement Couillard déposera cette semaine un projet de loi pour encadrer et uniformiser les services de transition aux anciens chefs du gouvernement. L'initiative de la ministre Kathleen Vail diminuera des deux tiers la période au cours de laquelle ils auront droit à un soutien de l'État. À l'heure actuelle, un ex-premier ministre a droit à un budget de 200 000 $ par an pendant les trois années qui suivent son départ. L'utilisation exacte des fonds fait l'objet d'une entente de gré à gré conclue avec le nouveau gouvernement. L'argent permet aux anciens dirigeants de bénéficier d'une voiture, d'un garde du corps et d'un bureau. Ils peuvent Ils peuvent également recevoir un soutien administratif, par exemple par l'embauche d'un attaché politique. Et lorsqu'ils se déplacent à l'étranger, ils disposent d'un encadrement sécuritaire et logistique. Or, a-t-on confirmé à la presse, le gouvernement Couillard s'apprête à leur serrer la vis. Minuit moins une pour la protection du massif. Hugo de Grandpré, Gérald Desourdis se tient au sommet du Mont Horizon. Devant lui s'étend un territoire de la taille du Mont Royal, recouvert d'arbres et strié de sentiers de randonnée. À gauche, en suspens sur une crête, le versant ouest de la montagne de Skibromont, avec ses pistes, ses télésièges et ses luxueux chalets, semble prêt à déferler sur la dernière partie intacte du massif du Mont Brome. « On ne peut pas se permettre de ne pas réussir », lance M. Desourdis, l'un des six enfants du fondateur de Bromont et qui, avec son frère Robert et d'autres, tente d'empêcher le cadet de la famille, Charles, président de Bromont, montagne d'expérience, de poursuivre le développement immobilier de la station de ski. Il est minuit moins une pour les opposants à Val 8, projet de 27 résidences qui pousserait l'empreinte immobilière du centre au cœur du fer à cheval, un amphithéâtre naturel niché à 375 mètres d'altitude entre le domaine skiable et les monts encore vierges Horizon, Bernard et Spruce au sud. Devant l'opposition de la population, le promoteur a accepté il y a un an de céder ses terrains au prix d'environ 7 millions de dollars pour la création d'un parc qui recouvrerait l'intégralité de ce territoire. Mais la date butoir pour confirmer que l'argent a bel et bien été récolté est le 31 décembre à 17 heures. À défaut, le promoteur Bromont Immobilier pourra aller de l'avant avec son projet. Et moins d'un mois avant cette date, 3,5 millions manquent encore à l'appel. C'est la part que la municipalité de Bromont et les groupes de protection impliqués dans l'aventure espèrent recevoir du ministère du Tourisme du Québec. Si le gouvernement du Québec ne vient pas appuyer ce projet-là au 31 décembre, Bromont, montagne d'expérience, va pouvoir sortir les scies à chaîne. C'est ça la conséquence, a dit Louis Villeneuve, maire de Bromont. Et je voulais juste terminer avec un passage sur les lieux. J'ai retrouvé mon passage. Le massif du Mont Brome est l'une des neuf collines montérégiennes qui s'élèvent au-dessus du paysage dans les environs de Montréal, avec notamment le Mont Saint-Hilaire, le Mont Royal, le Mont Saint-Bruno et le Mont Rougemont. Les montérégiennes sont à peu près le seul vestige de nos forêts précoloniales des basses terres du Saint-Laurent. Tout le reste a été exploité et tout le reste est cultivé, ou à peu près, ou a été modifié de façon significative, dit Joël Bonin, directeur de Conservation de la Nature Canada, l'organisme à but non lucratif qui doit fournir l'avis d'ici la fin de l'année au promoteur Bromont Immobilier. Une brève du côté des actualités internationales. Diamant de la paix, 6,5 millions. Le diamant de la paix mis en vente directement par le gouvernement sierra-léonais a été adjugé hier aux enchères à 6,53 millions de dollars américains. Une vente qui doit marquer une rupture avec l'ère des fameux « diamants du sang », entre guillemets. L'acquéreur est le joaillier britannique Lawrence Graff.
Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux. Et soudain, ça revient pour un bateau qui s'en va et revient. Il y a mille coquilles de noix sur ton chemin qui coulent et c'est très bien. Et c'est comme une tourterelle qui s'éloigne à tire-d'aile en l'enfant. C'est bien, elles s'en vont comme les bateaux. Et soudain, ça prévient comme un bateau qui revient. Et soudain, il y a mille sirènes de joie sur ton chemin qui résonnent et c'est très bien. Et ce n'est qu'une tourterelle qui revient à tire-d'aile en rapportant le duvet qui était ton lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan. Ce n'est qu'une tourterelle qui reviendra à tire-d'aile en rapportant le duvet qui était son nid un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan.
D'entendre Sylvain Dutu qui nous chantait « Ce n'est rien ».
Et on continue avec Le Devoir, cette fois en ce mardi 5 décembre 2017. Une photo sous laquelle on peut lire « Des immigrants ont été invités l'an dernier à visiter des entreprises agricoles à Sainte-Françoise, un village de 450 habitants situé dans le centre du Québec ». Dans le but de les convaincre de venir travailler en région. Forum sur l'intégration des immigrants en emploi, racisme, une consultation sans Québec. Excédé, une cinquantaine d'organismes lancent leur propre démarche parallèle. Quel est le mur, quel est ce mur que frappent les immigrants? Alors qu'aux quatre coins du Québec, des employeurs déplorent le manque de main-d'œuvre disponible, des milliers d'immigrants se tournent les pouces en attendant qu'on les rappelle. Le forum du ministre David Hurtel saura-t-il nommer le mur qui les sépare? On leur a fait miroiter une société ouverte aux cultures, dit Louise Hudon, travailleuse de milieu. Chine, les négociations devront attendre. Théâtre, Wajdi Mouawad triomphe à Paris. Le pont Champlain sera-t-il complété en 2018? Et finalement, toujours en une du Devoir, sport, Denis Shapovalov, nommé joueur de l'année par Tennis Canada. L'Ontarien de 18 ans s'est hissé au 51e rang mondial en 2017. Pied-de-nez au Forum sur l'intégration des immigrants en emploi qui s'ouvre aujourd'hui sur fond de critiques. Une cinquantaine d'organismes de la société civile lanceront une consultation parallèle pour parler de racisme. C'est ce que doivent annoncer aujourd'hui en conférence de presse des syndicats, des organisations féministes, LGBT et de défense des droits des immigrants aux côtés de la table de concertation sur le racisme systémique. TCRS, dont plusieurs membres militent depuis la première heure pour la création d'une commission publique sur le sujet. Ces groupes estiment que le gouvernement a abandonné l'idée d'une commission indépendante sur ces enjeux et mèneront eux-mêmes cette démarche citoyenne indépendante dont les contours sont encore à définir. L'idée est de parler des alternatives, a indiqué la porte-parole de la TCRS, donc la table de concertation sur le racisme systémique, Émilie Nicolas. On veut lancer les choses avant que tout soit complété et on veut assurer une participation large au brainstorm, dit-elle. On est dans le constat que rien ne va bouger avec le gouvernement. Le forum, qui recevra essentiellement des conférenciers du milieu des affaires, s'amorce également sur fond de cynisme et de scepticisme de la part de nombreux organismes. Déjà au moins 6 des 31 organismes mandatés par le ministère de l'Immigration, MIDI, pour mener des consultations locales, se sont retirés du processus depuis que le ministre David Hurtel a annoncé une réorientation axée sur l'emploi de la consultation. Plusieurs organismes dénoncent l'improvisation du forum. Le MIDI n'a pas non plus été capable de confirmer au Devoir le nombre de participants et de désistements, ni de fournir le nombre de mémoires déposées et de questionnaires remplis en ligne qui devaient alimenter le forum. La rumeur veut que le taux de participation en ligne ait été famélique. Pour chacun des thèmes des plénières, emploi, lutte contre la discrimination, formation et francisation, des conférenciers feront de courtes présentations suivies d'une période de questions de 10 minutes. L'ex-ministre Veil a annoncé la tenue de la consultation à la fin juillet. Il a été recadré et relancé début novembre par le ministre Hurtel, nouvellement en poste. Cette fois, l'application sera totale. Le plus haut tribunal des États-Unis a choisi lundi de remettre en vigueur le dernier décret migratoire du président Trump. Les restrictions seront ainsi en place pour la plus longue période depuis la première tentative du président américain en janvier dernier. La plus récente version de ce décret anti-immigration vise 8 pays. Il inclut notamment l'interdiction d'entrée sur le territoire américain pour les ressortissants de 6 pays à majorité musulmane. Iran, Libye, Somalie, Tchad, Syrie, Yémen et pour ceux de la Corée du Nord. L'entrée au pays est également hors de portée pour des responsables gouvernementaux du Venezuela. La victoire définitive n'est cependant pas assurée pour le président américain. La Cour suprême impose en fait l'application totale du décret durant l'examen sur le fond par des cours fédérales. Les jugements de ces cours d'appel pourraient ensuite être soumis à la Cour suprême par les perdants, c'est-à-dire les partis désavoués. Le président Trump justifie cette mesure controversée par la lutte contre le terrorisme. Les familles et les proches de femmes œuvrant dans l'industrie du sexe qui ne savent pas comment réagir ni quoi faire auront désormais à leur portée un guide que vient de réaliser la CLE, C-L-E-S, la Concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle, a dévoilé sa brochure intitulée « Guide d'informations destinées aux proches des victimes d'exploitation sexuelle », s'outiller pour mieux comprendre, lundi, lors d'une conférence de presse à Montréal. Le guide est disponible sur le web au www.lacles.org et sera également distribué par le réseau des 50 organismes partenaires, a indiqué Diane Matt, coordonnatrice de la CLE. Le guide a été réalisé grâce à une subvention du ministère de la Justice. Même si l'enquête se poursuit, rien ne permet de croire que des accusations seront déposées relativement au suicide de Simon Dufour, 15 ans, survenu à Saint-Bruno de Montarville en Montérégie il y a 2 semaines. La famille du jeune homme a affirmé que Simon était constamment victime d'intimidation à l'école et que les plaintes qu'elle a faites à la direction sont restées sans réponse. Le service de police de l'agglomération de Longueuil a indiqué lundi qu'aucun indice ne permet de croire, pour l'instant, à une quelconque responsabilité de la part de la direction d'école, de son personnel ou de ses élèves. Le premier ministre Justin Trudeau a choisi 2 nouvelles sénatrices, Mary Coyle et Jane McCollum, occuperont les sièges vacants de Nouvelle-Écosse et du Manitoba. Elles siégeront comme indépendantes, comme les 28 autres sénateurs nommés depuis l'arrivée de M. Trudeau au pouvoir. Le bureau du premier ministre décrit Mme Coyle comme une militante de longue date de l'égalité des sexes et des droits des peuples autochtones. Sa collègue manitobaine, la Dr. McCollum, est présentée comme une ardente défenseure de la justice sociale, elle qui a fourni des soins dentaires et des services de santé aux communautés du Nord et aux communautés autochtones. Et un député conservateur s'est excusé lundi d'avoir tenu des propos inappropriés auprès d'une collègue du gouvernement libéral. La députée de Longueuil, Charles Lemoine, Sherry Romanado, reproche au conservateur James Buzan d'avoir fait à son endroit des commentaires humiliants et de nature sexuelle.
Ça, c'est gros.
La tristitude, c'est jouer à la barbichette avec Kanta. C'est quand Igor apprend qu'il ressemble à Grishka. C'est répondre à un bonjour qui était pas pour toi. Ça fait mal. La tristitude, c'est quand t'as cru que c'était un anif costumé. C'est chanter un peu comme Zizou aux enfoirés. C'est quand dans Cad et Olivier, t'es Olivier. Et ça fait mal. La tristitude, c'est moi, c'est toi, c'est nous, c'est quoi? C'est la balade dans le col de Noa. La tristitude, c'est wouh, c'est eux, c'est vous. C'est la biguille de Ligue, ça va pas du tout. La tristitude, c'est quand un bec aux os remarque un okapi. C'est quand t'es le petit copain de Mimi Mati. C'est quand au Scrabble t'as K-Y-Q-X-J. Et ça fait que je... La tristitude, c'est quand tu fais ta bar mitzvah en 43. C'est tenter d'ouvrir un barguet au Nigeria. C'est quand l'un d'entre nous a mis une veste en rang. Et ça fait mal, mal, mal. La tristitude, c'est moi, c'est toi, c'est nous, c'est quoi? C'est la balade dans le grenadoua. La tristitude, c'est wouh, c'est eux, c'est vous. C'est la vie de dit que ça va pas du tout. La tristitude, c'est être le psychiatre de Francis Lalanne. C'est être le styliste de Francis Lalanne. c'est être le parolier de Francis Lalanne. Ça fait 30 ans, la tristitude, c'est la première fois que tu danses le Madison. C'est dire chocolatine ailleurs que dans la Garonne. C'est Elton John. Et ça fait mal, 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 la tristitude. C'est moi, c'est toi, c'est nous, c'est quoi? J'ai la maladie dans le creux d'un noir. La tristitude, c'est moi. C'est vous, c'est eux, c'est vous. C'est la vie qui le dit que ça va pas du tout. Non, 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 la tristitude. La tristitude. La tristitude. Te donne la tristitude. La tristitude. Te donne la tristitude. La tristitude. Non, 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 la tristitude. La tristitude. C'est quand tu essaies de faire un clip pour être beau. Et puis qu'on a mis une caméra en dessous et qui prend les doubles mentons. Et le bide, et ça c'est injuste parce qu'on se bat, nous les artistes, pour être beau. On fait des clips pour être classe. Et le monde s'en fout de tout ça. La tristitude.
On vient d'entendre la formation, ben l'artiste Old Left qui nous chantait La Tristitude.
À la une du Journal de Montréal, Ottawa ne promet pas le pont pour 2018. Et selon le rapport caviardé, le climat de travail est pourri à l'UPAC, bureau d'enquête, alors qu'on voit une photo du grand patron de l'unité permanente anticorruption, Robert Lafrenière. Décaviardé, le rapport de l'UPAC est dévastateur. Tensions, patrons-employés, problèmes de leadership et de communication, peur de représailles, ça ne tournait vraiment pas rond à l'unité permanente anticorruption, selon le fameux rapport sur le climat de travail que l'organisation refusait de rendre public. Ce sont plus d'une quarantaine d'employés du service de vérification dirigé jusqu'à la semaine dernière par le commissaire associé Marcel Forgette qui se sont confiés à la Direction des ressources humaines du ministère de la Sécurité publique, MSP. Plusieurs employés auraient de la difficulté à faire connaître, à faire confiance, dis-je bien, à la direction, peut-on lire dans ce document rédigé en septembre 2016. Selon le document, le leadership de M. Forgette est mis en cause. Certains employés avaient l'impression que le pouvoir du commissaire associé était confié en grande partie à la conseillère juridique de son service. On reproche à M. Forget des changements d'orientation fréquents. De plus, il n'y aurait pas assez de réunions de la direction et il en découlerait un manque de priorisation. Une absence de vision et d'objectifs est aussi déplorée. On lit aussi que la mauvaise communication et la collaboration déficiente entre les personnes travaillant sur un même dossier minent la qualité des vérifications et augmentent les délais. Marcel Forget a été mis au fait des conclusions le 22 septembre 2016. Il a démissionné, entre guillemets, la semaine dernière, afin de ne pas nuire à l'organisation, entre guillemets aussi, à la suite des révélations de notre bureau d'enquête sur d'anciennes activités liées à la vente d'actions d'une entreprise controversée. Une orgie de produits sucrés, trop gras ou salés chaque jour. Les pizzas congelées, les céréales ou les pains commerciaux bourrés de sucre, de sel ou de gras représentent maintenant plus de la moitié des calories que l'on consomme chaque jour, selon une étude publiée aujourd'hui. C'est préoccupant. La qualité de notre diète se détériore, s'inquiète le docteur Jean-Claude Moubarak, auteur du rapport commandé par la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. Les enfants de 9 à 13 ans sont même ceux qui consomment le plus de ces aliments hautement caloriques et peu nutritifs, appelés les aliments ultra-transformés. Les produits ultra-transformés contiennent généralement deux fois plus de calories, trois fois plus de sucre et deux fois plus de sodium. Ils fournissent aussi beaucoup moins de protéines, de fibres, de vitamines et de minéraux que les autres produits de base ou peu transformés, explique Jean-Claude Moubarak. Le gouvernement doit subventionner les aliments que l'on veut revoir au quotidien dans notre assiette, car au bout de la ligne, c'est lui qui paye la facture dans le système de santé, conclut Corinne Voyer de la coalition Poids, qui croit que l'État doit aussi légiférer afin d'obliger les fabricants à proposer des produits plus sains. Ottawa plus frileux à garantir 2018. Le gouvernement fédéral n'ose pas garantir que le nouveau pont Champlain sera livré à temps pour décembre prochain après les révélations de notre bureau d'enquête voulant que le chantier soit bourré de pièces défectueuses. Notre bureau d'enquête révélait hier matin que le chantier du nouveau pont Champlain souffre de nombreux défauts. Les ouvriers ont jusqu'à présent effectué plus de 2000 réparations sur des pièces maîtresses de sa structure. Notre bureau d'enquête a obtenu des dizaines de rapports d'experts qui montrent que de nombreuses pièces, surtout celles importées d'Espagne, comportent une foule de défaillances. Les exemples pleuvent comme des soudures incomplètes, des plaques de métal fissurées ou poreuses, ou encore des boulons non conformes. Le ministre des Transports du Canada, Marc Garneau, assure que la structure sera malgré tout à toute épreuve et durable. Un policier qui roulait à 180 km/h ira en prison. Un policier qui a tué un homme alors qu'il roulait à 180 km/h pour répondre à un appel jugé non urgent écope de 12 mois de prison, ce qui déçoit la famille de la victime. Ça ne nous ramènera pas notre fils, mais j'aurais aimé qu'il y ait un message plus clair qui soit envoyé. Nous, on a une sentence à vie, a déploré la mère de la victime, Linda Noonan, hier, après le prononcé de la sentence au palais de justice de Gatineau. L'agent François Lorrain de la Sûreté du Québec était en route pour rejoindre un collègue qui intervenait auprès d'un homme en crise au Festival de musique Rockfest de Montebello le 16 juin 2012. Son autopatrouille est entrée en collision avec une autre voiture sur la route 148 près de Papineauville, en Outaouais. Éric Rompré, 25 ans, est décédé et sa conjointe a été grièvement blessée. On sait qu'il ne fera seulement que le sixième de sa peine, donc 2 mois. Il n'a jamais exprimé de remords, donc on a de la difficulté à pardonner, a déclaré le père de la victime, Richard Rompré. En plus de la peine d'emprisonnement, le juge impose une période de probation durant laquelle le policier devra effectuer 100 heures de travaux communautaires et il lui sera interdit de conduire pendant 30 mois. Le policier Lorrain a déjà porté le verdict de culpabilité en appel. La cause pourrait être entendue au printemps 2018. Le gouvernement canadien a annoncé hier une aide supplémentaire pour éliminer les mines antipersonnelles dans le monde, y compris en Syrie, à l'occasion du 20e anniversaire de l'entrée en vigueur de la Convention d'Ottawa. L'aide de 12 millions a pour but d'assurer le retour dans de meilleures conditions de sécurité des civils à Raqqa, en Syrie, en détectant et en détruisant les mines que le groupe État islamique avait posées dans son ancien fief, repris en octobre par les combattants des forces démocratiques syriennes avec le soutien de la coalition internationale. Les fonds vont aussi soutenir d'autres initiatives contre les mines antipersonnelles en Ukraine, en Colombie, au Cambodge et au Laos, pays actuellement parmi les plus touchés dans le monde. mois de libre-échange avec la Chine, une conférence de presse entre les premiers ministres canadiens et chinois, Justin Trudeau et Li Keqiang, a été annulée hier par la Chine, signe que les négociations sur le libre-échange entre les deux pays ne sont pas sur le point d'aboutir. Une déclaration commune devait avoir lieu au Grand Palais du Peuple à Pékin à l'issue de la rencontre. La Chine a demandé d'annuler le point de presse et c'est pourquoi Justin Trudeau a rencontré la presse seul, a indiqué le cabinet du premier ministre. Un accord de libre-échange serait une grosse étape pour les deux pays. C'est important d'avoir une bonne entente et d'avancer au rythme approprié, a dit Justin Trudeau, précisant qu'il souhaitait un accord progressiste.
C'est pas grave.
Oh yeah, ce soir j'ai 100 ans.
Oh yeah.
Oh yeah, j'ai perdu mes gants.
Oh yeah.
Oh yeah, et j'ai mal aux dents.
Viens donc, baby, tout ça c'est pas grave.
Puisque tu t'en fiches tellement. Puisque rien n'est.
Ça, c'est pas grave. Bien donc, baby, tout ça, c'est pas grave. Bien donc, baby, tout ça, c'est pas grave. Si tu croyais m'étonner, alors là tu t'es gouré. Dans quelques jours, je m'en vais pour de bon. Avec une fille riche à millions.
Oh yeah!
Oh yeah!
Mon chéri, tu sais.
Oh yeah!
Oh yeah! Tout ça c'est pas vrai.
Oh yeah!
Oh yeah!
Moi je plaisantais. Viens donc, baby, tout ça c'est pas grave.
Ah si, c'est très grave, même.
Pas du tout.
De dire c'est pas grave.
C'est pas grave.
Ah, tu fais ça pour m'énerver, c'est ça?
N'insiste pas, c'est pas grave.
Je te déteste.
Je sais, mais c'est pas grave.
Tu ne coupes pas la parole.
Je t'aime, mais c'est pas grave.
Ah, tais-toi.
T'es gentil, t'es mignon, mais c'est pas grave.
J'en peux plus, tu m'énerves.
C'est pas grave.
Oh, tu m'aimes plus.
Mais c'est pas grave.
Tu me vois plus.
Et puisque je te dis que c'est pas grave.
Mais si, c'est grave.
Mais t'es bouché ou quoi? C'est pas grave, je te dis. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave.
Si, c'est grave. Bon, fais-moi un bisou.
On vient d'entendre Shirley et Dino qui nous chantaient tout ça. C'est pas grave.
La portion des journaux régionaux, maintenant Roger Blackburn dans le quotidien, une chronique intitulée « Ça va venir, découragez-vous pas ». Point d'exclamation. J'ai été élevé avec des vieilles chansons, ce n'est pas de ma faute, il y avait beaucoup de vieux disques à la maison familiale, dont des 78 tours pour les jeunes. Demandez à vos parents, c'est quoi un 78 tours? De la Bolduc. J'étais un des rares ados de 15 ans qui connaissait des chansons de la Bolduc et je les fredonne encore aujourd'hui. Je me souviens d'avoir déjà entendu le premier ministre Pierre-Éliott Trudeau évoquer la Bolduc dans un reportage télé en répondant à une question d'ordre économique à un journaliste. Il avait dit quelque chose du genre « C'est Madame Traverse qui a chanté. De l'ouvrage, il va y en avoir au Canada, mais il faut laisser le temps au nouveau gouvernement. » J'étais très étonnée de constater qu'un homme comme Trudeau, cultivé, faisant partie de l'élite politique du pays, connaissait les paroles d'une chanson d'une chanteuse ouvrière et turluteuse du Québec que j'écoutais sur un 78 tours qui grichait. Je pensais que c'était juste le petit monde qui écoutait ça dans le temps, la Bolduc. Bien, lundi, j'ai eu un petit coup de cœur en écoutant les nouvelles publicités musicales du temps des fêtes des producteurs de lait du Québec. Le petit Henri autour de la table avec les mêmes complices que l'an passé avec la toune « Y a-tu du lait ici ?» Entre parenthèses, les producteurs de lait du Saguenay-Lac-Saint-Jean en ont fait une version régionale et on donne un lien sur la page Facebook. Nous revient avec trois chansons dont « Ça va venir, découragez-vous pas ». Dans les nouvelles publicités des fêtes 2017, les verres de lait du petit Henri et ses amis sont vides sur la table. Le jeune donne un coup de poing et se met à chanter. « Mes amis, je vous assure que l'attente sera dure. Du bon lait, il va y en avoir pour tout le monde ce soir, mais il faut laisser le temps à notre belle grand-maman, ça va venir. » Encore une fois, la campagne du lait nous fait sourire. Rappelez-vous Adamo en 2000 plutôt, avec « C'est ma vie » sur l'album du lait qui s'est vendu à 200 000 copies. Mais de voir des jeunes de 6 ou 7 ans chanter une parodie de la Bolduc, ça fait du bien de revoir nos vieux classiques au goût du jour. Les 5 jeunes reprennent, outre la Bolduc, Chevalier de la table des enfants, inspiré de le Chevalier de la table ronde, et En revenant du frigo, inspiré de C'est en revenant de Rigaud, du bonbon. La coopérative Nutrinord fait partie des 4 grands transformateurs de lait du Québec qui se sont associés pour cette campagne du temps des fêtes. Depuis 20 ans, les campagnes du lait se distinguent et les chansons nostalgiques touchent toujours les consommateurs, fait valoir Julie Gilina, directrice marketing pour les producteurs de lait du Québec. Au cours des 8 dernières années, la consommation de breuvages concurrents au Québec a explosé de 630%. C'est énorme. On parle ici de tous les nouveaux breuvages sur le marché, comme les boissons à base de soya, les boissons énergétiques, les boissons aux amandes, au lait de coco. Les eaux vitaminées, les jus, c'est exponentiel comme offre. Et malgré cela, la consommation du lait n'a presque pas bougé. Moins de 1%, fait remarquer la spécialiste en marketing. Dans le temps des fêtes, on associe le lait au réconfort, mais le reste de l'année, on ramène les lettres de noblesse, les lettres de noble santé du lait avec ses vertus. La campagne solide liquide avec des Georges Saint-Pierre, Mylène Paquette, le commandant Piché, et Nadia Comaneci, lancée il y a 2 ans, s'inscrit dans un autre registre faisant référence à la santé. De quoi confondre les lactosceptiques, explique Julie Gélina. Les producteurs de lait du Québec investissent 20 millions par année dans des campagnes publicitaires pour mettre le lait en valeur. Même si la consommation de lait blanc en boisson a diminué un peu à cause de la grande concurrence ces dernières années, on le mange beaucoup plus qu'avant. En fromage, en crème, en beurre ou en yogourt, des produits qui sont en hausse met en relief la spécialiste en marketing, ajoutant que les producteurs de lait vivent une croissance phénoménale grâce à la consommation de tous ces produits. Les chansons des fêtes des producteurs de lait du Québec vont peut-être vous donner le goût d'ici en produits et en chansons. Une application mobile a également été réalisée pour compléter la proposition réconfortante des fêtes. C'était donc la chronique de Roger Blackburn dans le quotidien d'aujourd'hui. Dans le soleil, Marc Allard gare à l'angle mort des déneigeurs. Lundi matin, Simon Jourdain a revu pour la première fois depuis l'accident le chauffeur de la déneigeuse qui a happé mortellement une fillette de 8 ans vendredi midi. « Il est atterré, il pleure, dit M. Jourdain, propriétaire du groupe SA, qui détient le contrat de déneigement pour les immeubles HSF dans Charlebourg, où Michel Soleil a perdu la vie. Il ne pouvait pas faire plus. Il n'a jamais rien vu. De l'aveu même de M. Jourdain, la visibilité réduite des déneigeurs représente un danger majeur pour les piétons. Si on est trop près, on tombe dans un angle mort qui peut être mortel, met-il en garde. Le coroner, Luc Malouin, connaît bien cet enjeu. Il enquêtait sur la mort de 4 piétons en décembre 2008 et en février 2009 dans 3 opérations de déneigement à Montréal. La visibilité des déneigeurs est extrêmement réduite, a dit M. Malouin, au soleil. C'est un des éléments les plus frappants de cette enquête. Selon ce rapport, les 4 piétons fauchés à Montréal se trouvaient dans l'angle mort des véhicules lourds. Leur mort était accidentelle, mais évitable, avait-il estimé. Bon nombre de gens ignorent à quel point le champ visuel des déneigeurs est diminué, souligne M. Malouin, et ils ne prennent pas les précautions suffisantes lorsqu'ils sont à proximité de ces véhicules lourds, et parfois c'est au péril de leur vie. Plus le véhicule est gros, plus les angles morts deviennent importants, explique l'ingénieur Éric Abraham de l'École polytechnique de Montréal, qui a été témoin expert dans l'enquête du coroner Malouin. Assis en hauteur, les conducteurs de déneigeuses voient moins bien ce qui se passe au sol. Et leurs pelles, leurs souffleuses, leurs bennes et autres extensions restreignent encore davantage la vue. M. Jourdain, qui a conduit des déneigeuses pendant plus de 20 ans, estime que celles qui sont munies d'une souffleuse en particulier sont les pires. Elles réduisent, selon lui, la visibilité d'environ 30 %. C'est comme si je vous demandais de conduire en vous bloquant un œil, dit-il. Éric Abraham note que les enfants sont particulièrement vulnérables. Ils sont plus petits, donc ils risquent plus de se retrouver dans les angles morts. Plus vous êtes petit, plus vous êtes caché dans un angle mort. Les personnes âgées, dont les réflexes, l'audition et l'acuité visuelle diminuent avec l'âge, sont aussi plus vulnérables. 3 des 4 personnes happées mortellement par des déneigeuses à Montréal étaient des aînés. Et plus récemment, le 22 février 2016, une femme de 76 ans a été happée par un chargeur équipé d'une souffleuse à neige sur le bord du boulevard Morin, à Asbestos. La roue arrière gauche du poids lourd de 900 kg a roulé sur la dame, ne lui laissant aucune chance. La dame s'est retrouvée dans l'angle mort du véhicule au moment du demi-tour. Le conducteur du véhicule, souffleur, n'a pas été en mesure de la voir lors de sa manœuvre, écrit le coroner Gilles Saint-Ton. Selon M. Jourdain, le conducteur de la déneigeuse qui a happé l'enfant d'origine camerounaise à Québec n'a jamais eu connaissance d'un accident lui non plus. Ce serait en regardant sur sa caméra de recul qu'il a constaté qu'un corps se trouvait à l'arrière. 3 jours après le drame, le propriétaire du groupe SA se demande maintenant comment les déneigeurs peuvent prévenir de tels accidents. Et il croit qu'en ce qui concerne les déneigeurs, du moins, la solution pourrait passer par la technologie. Il pense notamment qu'un sonar de recul aurait pu contribuer à éviter la tragédie. Cette technologie, qui est intégrée à certaines voitures, détecte les véhicules ou les piétons grâce à des capteurs d'ondes sonores. Lorsque l'appareil détecte un obstacle, le conducteur est averti par un bruit plus ou moins strident. « S'il y avait un sonar, dit M. Jourdain, ça aurait peut-être sauvé la petite. » L'entrepreneur aimerait que le gouvernement adopte une réglementation obligeant ce type de technologie pour la machinerie lourde. Du côté des automobiles, tous les véhicules neufs vendus au Canada à partir du printemps 2018 devront obligatoirement être équipés d'une caméra de recul. Mais les véhicules lourds n'ont pas cette contrainte, déplore M. Jourdain, qui voudrait que le sonar aussi soit obligatoire pour obliger les fabricants à l'ajouter au poids lourd. Éric Abraham, qui est chercheur associé à l'équipe de sécurité routière de l'École polytechnique, croit que cette technologie pourrait contribuer à faire diminuer les accidents mortels impliquant de la machinerie lourde. Mais il souligne que ce n'est pas une solution miracle. Les bruits émis par le sonar peuvent être très fréquents dans un secteur où il y a de nombreux obstacles, comme pour le déneigement. Or, si ça sonne tout le temps à un moment donné, le conducteur, va le désactiver. Oui, il va arrêter de s'en occuper parce que ça sonne trop souvent, dit M. Abraham. Certaines technologies qui détectent seulement les piétons pourraient être plus prometteuses, estime l'ingénieur. Mais pour l'instant, la sensibilisation auprès du piéton est à privilégier, croit-il, parce que c'est lui qui va payer le prix si le véhicule lourd ne le voit pas. S'il y a un conseil de sécurité à retenir pour les piétons à proximité de déneigeuses, c'est d'établir un contact visuel avant de passer à proximité. Si le piéton ne voit pas le visage du conducteur ne le voit pas non plus, dit le coroner Luc Malouin qui a enquêté sur la mort de 4 piétons fauchés par des déneigeuses. Éric Abraham, qui est chercheur associé à l'équipe de sécurité routière de l'École polytechnique, insiste sur le même conseil et souligne la nécessité d'interagir avec le conducteur. En cas de doute, laissez-le passer car un poids lourd, ça ne pardonne pas, dit-il. Et pour terminer dans la tribune, Jérôme Gaudreau, un acheteur intelligent, entre guillemets, la période des transactions approche et le Phoenix a dévoilé ses orientations en exclusivité à la tribune. Jocelyn Thibault n'a pas l'intention de liquider son équipe. Au contraire, le directeur général se dit intéressé à améliorer sa formation en étant un acheteur intelligent. À son retour du voyage dans les Maritimes, après avoir vu les joueurs mettre fin à une séquence importante de défaites, les dirigeants de la formation ont tenu une rencontre afin d'élaborer le plan des prochaines semaines et de réfléchir à l'avenir du club. Avant même d'amasser les 16 points lors des 9 derniers matchs, la direction sherbrookoise avait pris la décision de miser sur les séries éliminatoires en espérant des victoires. Jocelyn Thibault ne sera peut-être pas le directeur général le plus agressif lors de cette période de transaction qui s'ouvrira le 17 décembre prochain, mais il ne compte pas rester les bras croisés.